France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Renaud, un héritage français. Chapitre 2. Billancourt, l'île au diable.
Il est 7h tout juste.
Billancourt, c'était un symbole. On disait quand Renault éternue, la France s'enrhume. C'était un symbole pour plusieurs raisons. D'abord, c'était tout près de Paris. Et puis, c'était la vieille culture prolétarienne des ouvriers professionnels très qualifiés, les fraiseurs, les tourneurs, les ajusteurs. C'était la forteresse de la CGT et du Parti communiste. C'était la forteresse des vieilles luttes héritées de 36. On y avait dansé les bals du Front populaire. Bref, c'était le symbole même d'une certaine classe ouvrière française.
Plus grand-chose ne rappelle la présence des usines Renault sur l'île Seguin aujourd'hui, remplacée notamment par une salle de concert. Je me souviens de les avoir visitées quelques mois avant leur destruction, aux environs de 2003. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. C'était le royaume de la tôle grise et des vitres cassées. Plus rien pour rappeler l'automobile, à part la grande fresque dans l'un des ateliers, un énorme losange Renault multicolore, dessiné en 1972 par l'artiste Victor Vasarely. Rien ne rappelait la présence des dizaines de milliers d'ouvriers qui s'étaient succédés dans cet endroit, à part, dans les vestiaires, ces grandes vasques en pierre où ils se lavaient les mains. Rien non plus ne rappelait Louis Renault, le fondateur, qui avait acheté ces terrains de l'île Seguin les uns après les autres, transformant une île bucolique qui servait au maraîchage en une juxtaposition de lingots de fer et de béton. Tout, en revanche, rappelait la dureté du lieu, ses proportions inhumaines et son imaginaire grandiose.
Ben, ça ressemble à une cité interdite. Vous l'avez visité, vous avez vu, il y a des murs, on n'y voit rien. Quand on se balade de l'extérieur, il y a un mur qui est extrêmement haut. Il doit bien être aussi haut que les murs de la prison de la santé. Et il délimite bien un périmètre tout à fait précis sur la carte. On ne peut pas y voir à l'intérieur. Louis Renault, très vite, a même intégré à son trapèze les rues qui étaient la propriété de la commune. Donc on ne peut pas y pénétrer, on ne peut pas traverser. Et réellement, tout ce qui s'y passait n'était pas secret, mais n'était pas connu de l'extérieur.
Le 28 novembre 1928, Louis Renault avait invité toute la presse française à visiter sa nouvelle usine de l'île Seguin à l'occasion de l'inauguration du nouveau pont qui la reliait à Boulogne-Billancourt. Cette usine était une prouesse de technologie, avec sa fonderie, ses presses, ses ateliers pour les moteurs, son immense halle de montage de 250 mètres de long et même sa centrale électrique. C'était le début d'une nouvelle ère inspirée par les États-Unis, celle du travail à la chaîne et même du chronométrage, même si les méthodes fordistes n'y seront jamais appliquées avec la même rigueur qu'en Amérique, Renault étant convaincu que la culture française du travail ne le permettrait jamais. Toujours est-il que Billancourt représente un changement radical dans la manière de fabriquer des voitures. Adieu à ce qui pouvait encore relever de l'artisanat, bonjour à la standardisation. On disait dans les années 20 que ce n'était pas si mal de travailler chez Renault parce que les salaires étaient un peu plus élevés qu'ailleurs. Mais en ce début des années 30, l'atmosphère commence à changer. Cet immense bâtiment, symbole de la puissance d'un seul homme, était une citadelle patronale et elle s'apprêtait à devenir, selon l'expression de l'écrivain et journaliste Jacques Frémontier, une forteresse ouvrière. Il faut dire que dans l'entre-deux-guerres, un autre surnom avait été accolé à l'endroit, l'île au diable, une référence évidemment à cette île au large de la Guyane où les prisonniers étaient envoyés au bagne. Patrick Fridançon, vous êtes historien et directeur d'études émérite à l'EHESS. Dans les années 30, est-ce qu'il était compréhensible selon vous de parler des usines Renault de Boulogne-Billancourt comme d'un bagne ?
Toute usine de grande taille est qualifiée du terme de bagne dès les années 1880. C'est ce que l'historienne Michel Perrault a montré. Donc les appeler bagne, ça n'avait aucune identité spécifique.
Donc ça ne signifie pas que les conditions de travail étaient particulièrement difficiles sur l'île Seguin à l'époque.
Personne ne peut dire que les conditions de travail étaient plus difficiles chez Renault qu'elles étaient chez Citroën au même moment. Ce qui fait force de frappe, si j'ose dire, c'est le fait que l'île Seguin, construite en plusieurs morceaux à partir de 1929, et terminée en 1934, elle fait l'impression d'une citadelle. Et ça, l'idée de citadelle ou l'idée de forteresse, c'est assez propre à Renault.
Donc vous pensez au fond que l'architecture même, l'impression que donne cette usine comme ça au milieu de l'eau, avec ses murs en effet très hauts qui peuvent rappeler, je ne sais pas, Alcatraz par exemple, a joué beaucoup dans l'imaginaire de l'entreprise Renault ?
Certainement, et d'autant plus que, à part la centrale électrique dont vous avez parlé, qui est l'œuvre d'un architecte relativement connu. Cette usine a été construite par des ingénieurs et des ingénieurs de l'entreprise pour lesquels compte la rentabilité, l'efficacité, la logistique et dans ces conditions, l'organisation de l'espace pour des hommes et dans une certaine mesure progressivement des femmes, ça n'a pas véritablement d'importance.
Alors si Boulogne-Billancourt n'était pas un bagne, est-ce que c'était un endroit où finalement les conditions de travail, de salaire, pouvaient être au fond un peu meilleures qu'à d'autres endroits selon vous ?
Alors dans les années 30, on ne peut pas dire cela parce que comme l'ensemble des constructeurs automobiles du monde entier, dès que la crise éclate et se prolonge, Renault va licencier un très grand nombre de membres de son personnel. Renault licencie, Citroën licencie. Ford aux États-Unis licencie 84% de son personnel. Donc, si vous voulez, l'image des années 20, qui était effectivement une image de croissance, en prend un coup et il reste les gens dont la compétence est indispensable, c'est-à-dire les ouvriers qualifiés, que eux, on a du mal à liquider rapidement et qui vont être le pivot des grèves de 1936. Mais ça, naturellement, au début des années 30, personne ne le sait.
En 1934, voilà ce que le journaliste Paul Vaillant-Couturier écrivait dans les colonnes du journal communiste L'Humanité au sujet des usines Renault. L'île Seguin, c'est la fourmilière, la termitière, une vie où tout est réglé par la mise en commun des efforts pour la construction d'une œuvre immense au profit de quelques mâles ailés. Moyennant quoi, juste de quoi manger, ces ouvriers n'ont même pas les garanties que donne à la fourmilière la garantie de reproduction de l'espèce. Est-ce qu'on peut faire un portrait robot de l'ouvrier Renault dans l'entre-deux-guerres ?
Alors, l'ouvrier Renault dans l'entre-deux-guerres, il se découpe en deux morceaux. Il y a la masse des ouvriers non qualifiés, ceux qu'on appelle déjà de cette époque les OS, c'est-à-dire les ouvriers spécialisés. Naturellement, c'est un terme du vocabulaire des ingénieurs. Ils sont spécialisés dans rien.
C'est-à-dire qu'ils font toujours le même geste, au fond.
Ils font toujours le même geste, mais ce geste, ça ne correspond pas à leurs compétences. Et une partie d'entre eux sont des émigrés qui viennent en particulier de Russie. C'est pour ça qu'on parle de Billancourt comme Billancoursk. À cause de son église et à cause de sa colonie russe issue de la révolution, des révolutions.
Donc c'était des Russes blancs qui fuyaient l'URSS et qui venaient travailler
en grande partie,
à Renault.
En grande partie, bien sûr. Et puis des immigrés de tout poil et de tout gibier, algériens, tunisiens, marocains, mais il y a aussi des Chinois, Deng Xiaoping, Zhou Enlai.
Donc Deng Xiaoping, futur dirigeant de la République populaire de Chine, qui a même travaillé une année, je crois, oui, en 1925. Comment est-ce qu'il se retrouve là ?
Parce que ces usines, d'une certaine manière, comme les mines de charbon, sont des dévoreuses de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a mécanisation, et mécanisation de plus en plus, mais il y a aussi la production de voitures qui augmente de plus en plus. Et dans ces conditions, il y a besoin de main-d'œuvre. Et on a une vision saisonnière de l'industrie. C'est-à-dire il y a la période du printemps et de l'été où on produit beaucoup. Et puis après, le patron licencie les ouvriers spécialisés.
D'accord, on licencie comme ça sans aucune difficulté visiter sans aucun préavis.
Bien sûr. Et puis, vous avez un marché du travail en région parisienne qui est censé être important. Donc, on part de l'idée que les ouvriers ou les ouvrières seront disponibles par la suite. Puis, il y a une dernière chose. Il y a une police d'entreprise. Et cette police d'entreprise, elle va signaler les mécontents et elle va faire en sorte que ces mécontents soient virés en cas de besoin.
Donc dans l'entre-deux-guerres, on peut dire que Louis Renault a vraiment la main sur son entreprise, sur ses employés, et que c'est silence dans les rangs.
Absolument. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une sociabilité ouvrière, mais cette sociabilité, elle se fait autour, au café, dans les petits hôtels où logent les ouvriers célibataires, à l'église pour les ouvriers d'origine russe. Mais il n'y a pas de sociabilité dans l'usine officiellement, bien que on sache par les archives, par les mémoires, qu'il arrive que les ouvriers réussissent à se parler. Et personne ne peut dire, et ça c'est un point très important, que le contrôle soit total.
Louis Renault est un homme qui croit que le pouvoir de l'individu doit primer sur le collectif. Dans certaines de ses notes, il explique que la lutte des parties ne rapporte rien et certainement pas le bien-être. Car, dit-il, ce qui est avantageux pour un collectif dans son ensemble est souvent le contraire pour une très grande partie de ce collectif. Pour Louis Renault, le bonheur, c'est le calme, l'ordre, la bonne organisation. Comme il l'écrira dans une note de janvier 1936, il craint l'égalité car elle supprime le désir de l'effort. D'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, il aura tendance à penser que la France ne travaille pas assez, ne fait pas assez d'efforts comparé à l'Allemagne voisine dont il admire la puissance industrielle. Sur cette période de l'entre-deux-guerres, diriez-vous qu'il y a une admiration de Louis Renault pour le chancelier allemand Hitler ?
Je ne dirais pas, parce que il y a chez Louis Renault la volonté qu'il n'y ait plus de guerre, ça c'est certain. Il a été un des animateurs de la Première Guerre mondiale, mais il a subi le choc de la Première Guerre mondiale. Et ce qui l'intéresse, c'est vraiment produire et consommer. Mais en faire un acteur politique, ça n'est pas de ceux qui vont financer les mouvements d'extrême droite, ce n'est pas de ceux qui vont avoir des relations avec les ambassadeurs allemands successifs.
Que se passe-t-il en 1934 qui fait qu'on passe de la citadelle patronale, on a l'impression que Louis Renault est tout puissant, qu'il peut faire absolument ce qu'il veut, à ce qui va arriver plus tard en 1936, c'est-à-dire des revendications qui vont aboutir à un certain nombre d'avancées sociales?
Eh bien, il se passe deux choses. Il y a la grande manifestation des ligues et de l'extrême droite, le 6 février. Et celle-ci provoque une émission considérable qui est reprise en main par les partis politiques avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Et apparaît l'idée qu'on ne peut pas laisser la France basculer vers l'extrême droite et la droite. Mais du côté des militants syndicaux et communistes de la CGTU, apparaît l'idée qu'il faut se rapprocher des masses. Et chez Renault, ça se passe de la manière suivante, c'est ce qu'on appelle la manifestation des casse-croûtes, c'est-à-dire que les ouvriers à la cantine vont renverser les chariots de nourriture comme étant une façon à eux, complètement innovante, de montrer le désaccord avec ce que risque d'arriver à la République. Et à partir de là, les militants communistes, en accord aussi avec le tournant de l'Internationale, vont élaborer un cahier de revendications assez complet. Ce cahier va beaucoup évoluer et on va le trouver en 1936.
En cette année 1934, l'entreprise Renault engage un nouveau collaborateur qui vient grossir les quelques 30 000 employés présents sur le site. Il s'agit d'un jeune photographe qui doit fixer sur pellicule les pièces mécaniques fabriquées par l'entreprise et prendre aussi quelques clichés publicitaires. Son nom, Robert Doisneau, le futur auteur du Baiser de l'Hôtel de Ville. Nous avons retrouvé son témoignage dans la salle des archives. Dominique Rousset lui avait consacré un numéro de l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture en 1985.
Je faisais des photos dans les ateliers, des machines-outils. Et la grande récompense, c'était d'aller faire une photo publicitaire au Bois de Boulogne avec une voiture. Il y avait des grosses voitures chez Renault, les Viva Stella, il y avait 8 places. Alors, on mettait 8 dactylos à l'intérieur, et puis on allait faire des photos folles à la cascade.
Mais quel est le métier, quel est le travail d'un photographe comme ça, industriel, chez Renault? Parce que vous y étiez tous les jours, vous étiez vraiment engagé.
Oui. Il fallait même être à l'heure le matin, oui. Okay. Oui, écoutez, on vous disait, par exemple, il y a une nouvelle chaîne qui vient d'être mise en route. Bon, faire la photo de la chaîne, ça, c'est encore un élément intéressant. Mais la plupart du temps, c'était un détail sur une machine-outil. On avait modifié la machine à faire les soupapes, alors il fallait photographier de près. Avec un matériel qui était tout de même assez gros. Quand il y a une machine-outil avec un fond qui est mauvais, derrière qu'un fond où il y a une vieille échelle, où il y a des choses entreposées, alors, j'avais inventé aussi ce truc qui était de faire brûler de la poudre qui fait de la fumée, là, les fumigènes de chez Ruggieri.
Papier d'Arménie, non? C'était pas ça?
Ça sentait le papier d'Arménie. Mais ça faisait un image énorme. Alors, la machine avait l'air de voler en l'air. Enfin, c'était épatant. C'était sur un cumulus. C'était très joli. Et puis, alors, ce nuage se dissipait lentement après. Hein, les gens toussaient. C'était amusant, ça. Monsieur Renault a eu quelques heures perdues comme ça dans la production.
Il n'avait pas très bon caractère, je crois.
Ah ben, c'était un homme qui était perpétuellement fureur. Mais nos rapports étaient très espacés. Hein. Mais à chaque fois que je l'ai vu, il était toujours en colère. Je crois qu'il se levait furieux le matin et se couchait dans un dernier hoquet de fureur. Non, j'ai toujours vu en colère.
C'est et probablement comme ça. Le travail était dur chez Renault? Vous étiez frappé par cela?
Très fatigant. Moi, Et puis alors, c'était en 34. Il n'y avait pas de garage pour les vélos, il n'y avait pas de douche pour les gens des forges. Donc, c'était un petit peu médiéval.
Douaneau a travaillé 5 ans dans l'entreprise avant d'être renvoyé. Il avait en effet tenté de truquer ses cartes de pointage. Mais chez Renault, la publicité ne se limitait pas à prendre quelques photos des voitures. Elle passait aussi par des chansons diffusées à la radio, comme celle-ci avec l'interprète Mireille, une célébrité de l'époque.
J'en ai rêve d'enfant déjà désiré, une automobile. Je la voyais noire avec des filets, tout si possible. C'était déjà, je savais, où mettre le fond bouquet. Et bien maintenant, ça y est. C'est tout rêvé, je l'ai acheté cette charmante auto, où je suis fière, c'est une Renault, avec l'arrière très aérodynamique. Aujourd'hui, y'a rien de plus chic, je distingue par bonheur, frein d'accélérateur, cette charmante auto, c'est une Renault.
Dites donc, vous voyez pas le signal? Vous ne pouvez pas vous arrêter comme tout le monde, là, malgré votre Renault.
Alors que les Français les plus aisés commencent à s'équiper en voiture pour se promener à la campagne, l'aspiration à davantage de bien-être gagne l'ensemble de la population. Ce sont les prémices de 1936, les racines culturelles du Front populaire. Patrick Fridançon, comment est-ce que Louis Renault va-t-il réagir à ces premières agitations que vous nous racontiez dans ces usines à la suite du 6 février 1934?
Alors, Louis Renault, d'après ce que l'on peut comprendre, mais on trouve tous les jours des archives sur lui, donc on n'est pas totalement certain, ne voit pas monter ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, quand la grève éclate le 28 mai 1936, non seulement il est surpris, mais il est non moins surpris que de voir que dans le quart d'heure ou dans la demi-heure, il y a tous les dirigeants de la métallurgie communiste de la région parisienne et du niveau national, plus Benoît Frachon, le secrétaire ancien de la CGTU, qui débarque dans les lieux. Tout autour, un certain nombre d'usines se sont mises en grève, et celle qui est la plus proche et qui a déclenché les choses, c'est l'usine aéronautique de Farman, qui est à Boulogne-Billancourt, il connaît bien, mais le choc est total. Et on voit là, si vous voulez, le couronnement des efforts d'occupation que la CGTU et le Parti communiste ont mené depuis 1930.
Milliardaire depuis maintenant de nombreuses années, Louis Renault a sans doute perdu le contact avec la réalité sociale de ses usines et la vie quotidienne de ses ouvriers. Dans ses propriétés, on vit comme dans le film « La règle du jeu » de Jean Renoir, au milieu de fêtes raffinées et dans un petit air de décadence. Pendant ce temps-là, à Billancourt, on débraye. La fracture est actée entre le patron et ses ouvriers. La grève dure, aboutit à 2 semaines de congés payés pour tous et 15% d'augmentation de salaire.
Vive le Parti communiste !
Vive le Parti communiste ! Au point de demain, la terre nationale sera le vent rémain.
La parole est au camarade Marcel Cachin.
Camarade, les soviets en France, les soviets partout, ce mot d'ordre domine désormais tous les rassemblements de prolétaires. Il signifie que les ouvriers et les paysans travailleurs réclament pour leur classe le gouvernement du pays. Dès maintenant, 250 millions d'êtres humains vivent sous ce régime en Union soviétique et en Chine. Les travailleurs comprennent que sous le régime parlementaire, la souveraineté populaire n'est qu'un trompe-l'œil puisque l'argent y est maître de tout. Mais le parlementarisme est déjà à son déclin. Il subit le destin du capital dont il fut l'instrument politique. Le fascisme l'a abattu dans l'Europe presque entière pour y substituer un régime pire encore de dictature et de répression sanglante. Le fascisme a renforcé le pouvoir central de la bourgeoisie. Il a supprimé les libertés ouvrières. Il a livré le prolétariat à l'exploitation sans limite du capital.
Patrick Fridançon, à travers ce discours de l'homme politique Marcel Cachin, on peut se faire une idée de l'ambiance qui devait régner dans les têtes des ouvriers à Boulogne-Billancourt en 36, non ?
Quand on a une masse ouvrière qui est aux alentours de 33 000 personnes et que vous avez une toute petite organisation, 120 communistes à Billancourt en 1934, 700 membres de la CGT, il y a un problème qui consiste à faire de l'ordre pour que cette masse soit canalisée vers des objectifs. Or là, quel est l'objectif une fois que la grève est déclenchée? C'est d'une part qu'elle obtienne des résultats, alors que jusqu'à présent, toutes les grèves de 1930 à 1936 ont échoué. Et deuxièmement, que dans les rapports entre les socialistes, les radicaux et les communistes, le Parti communiste exerce ce qu'il appelle lui-même, ou ce que d'autres ont appelé, le ministère des masses. Et c'est bien ça que dit Marcel Cachin, c'est un monde qui est coupé en noir et blanc. Il y a d'un côté les fascistes et de l'autre côté, il y a les communistes. Le sous-texte est quand même assez clair. Les socialistes et les radicaux, ils n'ont pas l'avenir devant eux.
Le contexte international n'est pas non plus sans effet sur la situation chez Renault à ce moment-là. En solidarité avec les républicains espagnols, en guerre contre les troupes de Franco, des délégués syndicaux de certains ateliers vont demander de détourner la production pour l'envoyer gratuitement en Espagne. Évidemment, Louis Renault est furieux, il refuse.
La deuxième occupation dure du 4 au 13 juin. Le 13 juin, c'est un grand défilé avec des banderoles, des gens qui dansent, de la musique. Et le résultat est quand même extrêmement clair. L'augmentation de salaire est supérieure à celle du cahier de revendication.
C'est là peut-être que naît le mythe de Renault, citadelle ouvrière.
Complètement. Et la presse, les photographes, le cinéma vont immortaliser cette image.
Les revendications des Renault vont au-delà de leurs simples conditions ouvrières. C'est bien un changement de société qui est réclamé par une partie du personnel. La tension se change parfois en haine entre le patron et les syndicalistes. C'est ce que va montrer l'affaire du lockout. Ça s'est passé à la fin de novembre 1938. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et en vue du réarmement de la France, des dérogations à la semaine des 40 heures sont accordées aux patrons. Environ 3500 ouvriers de Renault se mettent alors en grève et occupent l'usine. Face à eux, on envoie la police et la gendarmerie en nombre pour mater les manifestants dans la violence. Louis Renault prend alors une décision incroyable. Toutes les personnes présentes à ce moment-là dans l'usine sont renvoyées sur le champ. Elles seront ensuite réembauchées, sauf pour 20% d'entre elles, les meneurs, les communistes, les syndicalistes durs, eux sont renvoyés pour de bon.
On sait maintenant que l'entreprise attendait cette grève et avait pris toutes ses dispositions, y compris en accord avec le gouvernement et le ministère de l'Intérieur.
Donc l'idée de renvoyer tout le monde et de ne prendre que les bons éléments, entre guillemets, était validée par le gouvernement de l'époque ?
Alors, quelle était validée en détail ? Je n'en sais absolument rien. Ce n'était en toute et cause pas du tout une initiative nouvelle. En 1913, contre le chronométrage dont vous avez parlé tout à l'heure, Louis Renault avait déjà fait la même chose.
Contre une grève contre le chronométrage ?
Oui. Et donc, l'idée que l'on n'ait pas le droit syndical et la sécurité de l'emploi à l'issue de la grève, cette idée-là, il faut bien voir que c'était courant.
Et pourquoi dites-vous que cet épisode sera l'un des ferments de la nationalisation après-guerre ?
Ben parce que, tout simplement, quand vous licenciez 3000 ou 3500 personnes, personne ne peut croire que votre entreprise, c'est le paradis sur Terre. Et que après l'épreuve gigantesque qu'a été la guerre, puis l'occupation de la France par l'Allemagne et l'Italie, et que l'Allemagne et l'Italie soient vaincues et que le régime de Vichy soit démoli, il y a de l'espace pour un autre Billancourt. Et cet autre Billancourt, ce sera le Billancourt de la nationalisation.
Est-ce que cet épisode du lockout peut nous faire penser à, je ne sais pas, Elon Musk par exemple, qui décide d'ouvrir la porte, pour le dire de façon euphémisée, afin que tous les fonctionnaires qui le souhaitent, et bientôt ceux qui ne le souhaitent pas aussi, quittent leur poste. Je parle des États-Unis bien sûr.
Elon Musk, de l'avis de nombreux juristes, viole le droit. Dans le droit républicain de la France de novembre 1938, Louis Renault ne viole pas le droit. Il y a, si j'ose dire, un vide juridique. Clairement, si vous voulez, il n'y a rien qui garantisse que, par exemple, les délégués du personnel ne soient pas licenciés.
Alors que les rumeurs de guerre grondent de nouveau en Europe, les usines Renault sont plus fracturées que jamais. La défiance vis-à-vis du patron, dure, sans concession, a beaucoup grandi. On n'est plus du tout dans la situation de 1914. Louis Renault, de son côté, est fatigué et malade. C'est dans cette situation très délicate que les chars allemands envahissent le territoire français et se dirigent vers Paris. Renault, un héritage français, une proposition de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Cornaer, prise de son Mineta Jawara, mixage Éric Boisset, documentation INA, Delphine André.